personne a réussi à prendre la main sur son PC. Et là, en fait, elle lui demandait de l'argent pour pouvoir débloquer la situation.
DigiVendée, un podcast produit par le podcast Vendéen.
Salut à tous et bienvenue dans DigiVendée, le podcast qui rend le numérique simple pour tous. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial, la sécurité et la vie privée sur Internet. Alors entre mots de passe, arnaques, navigation sécurisée et protection des enfants et des seniors, on va voir avec Fred Mandin, de mon assistant numérique Vendée au Bocage, comment rester serein en ligne.
DigiVendée, le podcast qui rend le digital accessible à tous.
Et pour commencer ce deuxième numéro, une question peut-être un peu vaste, mais qu'est-ce qu'une bonne hygiène numérique ?
Ouais, c'est assez vaste. Bonne hygiène numérique, on va parler principalement navigation sur Internet. Éviter de cliquer un peu partout. Moi, je vois beaucoup de gens qui cliquent sans lire. Alors, on est tous pareils, hein. On clique. Et des fois, là, je vois, il y a plein de sites où on peut télécharger des logiciels et ils proposent... Les liens, en plus, sont bien faits. Enfin, les boutons sont faits pour que ça installe des outils un peu... Donc ça, il y a ça où faut faire assez attention. C'est assez vaste comme question, donc peut-être qu'on rentrera dans les détails après. Ouais.
Alors on a besoin également d'avoir des mots de passe pour à peu près tout aujourd'hui en 2026. Comment on crée un mot de passe vraiment sécurisé ? Est-ce qu'il faut avoir des mots de passe différents pour chaque site ?
Ça c'est la règle numéro 1. Après il y a plein d'astuces pour créer des mots de passe. Mais oui, la règle numéro 1 c'est de ne pas mettre les mêmes mots de passe partout. Alors moi j'interviens chez des gens, chez des particuliers qui ont parfois honte de me sortir leur petit calepin. Mais moi je leur dis n'ayez pas honte de ça parce que je préfère voir ça que de voir des mots de passe 1, 2, 3, 4 partout. Hein. Donc après on connaît un peu les règles, hein. Plus il est long, alors on parle de entre 12-18 caractères pour créer un mot de passe. Et éviter les. Enfin, il faut absolument. Interdire les mots courants, les noms communs, les noms propres, les noms courants en fait. Voilà, après comme d'hab, hein, les majuscules, les chiffres, les caractères spéciaux, etc.
Est-ce qu'on peut installer un gestionnaire de mots de passe ou ça ne sert à rien ?
Non, je conseille. Alors, les personnes chez qui j'interviens, donc souvent des personnes âgées qui ont leur petit calepin, je leur dis c'est très bien. Les personnes un peu plus aguerries, je leur conseille des outils. Il y a Bitwarden qui est assez connu, mais qui n'est pas français. Après, il y a un outil aussi qui est très utilisé, c'est KeePass. KeePass, ça permet de...
C'est quoi KeePass ?
C'est un logiciel. Alors attention, il y a plusieurs versions de KeePass, mais c'est un logiciel libre qu'on peut installer et on peut stocker ses mots de passe dedans.
Et on peut avoir confiance, hein, un trousseau de mots de passe, je peux lui faire confiance.
Hein. Oui, pour moi, ça marche très bien. Hein. Il y a plein d'entreprises qui utilisent KeePass. Pour moi, c'est OK. Hein.
Est-ce que tu conseilles aujourd'hui, là, en 2026, de changer ses mots de passe régulièrement ou on peut garder le même
Non. Pour moi, si on n'est pas dans le cas des entreprises où il faut changer son mot de passe, ça dépend des stratégies qui sont en place dans l'entreprise, mais si pour un particulier un mot de passe bien conçu, il n'y a aucun souci pour moi, et on peut le garder.
Alors,
mais pas le même pour tous les sites. Alors il y a une tendance aussi, il y a des choses qu'on voit de plus en plus et qui sont pas mal. On peut s'identifier sans mot de passe. Alors on a toujours un mot de passe quelque part, mais le site ou l'outil ou le service propose des codes à usage unique.
Et puis il y a aussi le système de la double authentification. Hein.
La double authentification, en fait, soit on passe par le SMS, comme on se disait, hein, soit on passe par des applications comme Google Authenticator, où il y a plein d'outils différents, qui génèrent un code pareil à usage unique toutes les minutes. Et grâce à ça, en fait, on se branche au service. Et on passe sur cette appli à chaque fois pour s'authentifier.
Bon, une fois que nos mots de passe sont sécurisés, on va tenter d'échapper et de ne pas se faire arnaquer. Voilà. Quelles sont les arnaques les plus courantes aujourd'hui sur Internet ?
Les plus fréquentes, moi j'ai eu le cas, je suis allé chez un particulier, ouais, c'est des outils qui s'installent via un lien cliqué souvent. C'est des outils qui s'installent où les gens peuvent prendre la main sur le PC de la personne. En fait, au début, on a un message en disant « Appelez tel numéro, votre PC est bloqué ». Donc la personne a appelé le numéro, c'est ce que j'ai eu comme cas, hein, et la personne a réussi à prendre la main sur son PC. Alors heureusement, elle avait Norton qui a bloqué l'affichage des mots de passe de son compte de son Chrome, de son Google Chrome avec son compte Gmail. Mais c'est... Et là, en fait, elle lui demandait de l'argent pour pouvoir débloquer la situation. La personne donc a paniqué, elle a dit « faut que je contacte ma banque » parce qu'elle a senti que ça ne sentait pas bon. Et la personne a commencé à essayer d'insister, et elle a dit non, je raccroche. Et après, elle m'a appelé, et moi je suis intervenu le lendemain, elle avait coupé son PC. On a changé quelques mots de passe, on a mis la double authentification en place, parce qu'elle ne l'avait pas sur des comptes sensibles. J'ai passé une heure et demie à faire un peu le check complet du PC, quoi.
Comment on reconnaît un mail ? Alors, on parle des mails, évidemment, mais aussi des SMS. Comment on reconnaît un mail ou un SMS frauduleux aujourd'hui ?
Moi, c'est l'expérience. Alors, ce qui est compliqué sur les smartphones, c'est qu'on ne peut pas survoler le lien pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que les liens, ils sont un peu étranges. Il ne faut pas cliquer dessus. Sur un PC, c'est différent.
Sur un mail, c'est facile.
Sur un ordinateur... Il y a quelques pratiques, bonnes pratiques, mais comme je dis, il faut être sur un ordinateur. Quand on survole le lien, on voit que l'adresse en bas, elle est bizarre, avec des lettres bizarres. Alors à une époque, il y avait des fautes dans le mail,
il y en a de plus en moins.
Ouais. Ils utilisent l'IA, bien évidemment, j'imagine. Il faut aller voir aussi l'expéditeur, voir si l'adresse d'expédition. Il y a eu une arnaque là avec les cartes grises de voiture. C'était ultra bien fait. Ils ont réussi à. Alors des fois, c'est une histoire de un i est remplacé par un l. Hein. Donc c'est vraiment compliqué. Faut vraiment faire attention.
Qui sont les plus vulnérables à ces arnaques ? Est-ce que ce sont les ados ou les seniors ?
Ouais, plus les seniors, je pense. Les jeunes. Et... Pour moi, toutes les personnes qui font pas trop attention, qui vont un peu trop vite, ouais. C'est peut-être eux pour moi. Alors les enfants, ça va pas intéresser les hackers ou les pirates, on va dire, parce qu'ils ne pourront pas leur soutirer d'argent. Ou moins facilement. Eux, ils préfèrent. Enfin, leur cible privilégiée, pour moi, c'est les seniors.
Ouais. Évidemment, il n'y a pas que des arnaques hein, sur Internet, mais quand même, quels sont les bons réflexes à adopter pour naviguer sereinement sur le net ?
Alors, les sites web, il faut bien vérifier dans le navigateur que l'adresse soit en HTTPS. Là, on voyait à une époque, on voyait un petit cadenas. Maintenant, on voit plus forcément sur Chrome ou même sur d'autres navigateurs. Après, alors c'est de plus en plus dur, hein, comme on disait. Maintenant, en plus, ils utilisent, j'imagine, l'IA pour générer des pages qui ressemblent de plus en plus au site officiel. Donc, il faut pas faire confiance à tout le monde aveuglément.
Est-ce qu'un simple antivirus, ça suffit aujourd'hui pour se protéger ?
Sur un PC, moi, je conseille l'antivirus de base hein, de Windows, hein, qui s'appelle Windows Defender, ou maintenant c'est Windows Security. Pour un usage d'un particulier, c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant.
On parle beaucoup des VPN également. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un VPN ?
J'aime bien prendre l'exemple de quand on était enfant, tout le monde a déjà testé le... communiquer avec un gobelet et une ficelle, deux gobelets et une ficelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est le fait de parler. Alors après, nous, on parle souvent dans l'informatique, on parle d'un tuyau. C'est pour pouvoir communiquer entre deux personnes ou entre deux sites, un VPN, c'est ça, c'est vraiment, sans que tout l'extérieur, tout ce qui se passe autour, entende ou puisse voir ce qui s'y passe. Pour moi, c'est vraiment un tuyau entre deux personnes ou alors deux services ou deux sites, des choses comme ça. Pour accéder, par exemple, dans une entreprise, c'est pour accéder à un site distant. Voilà. Moi, j'ai un ami qui voyage, qui passe beaucoup de temps dans des hôtels.
Les aéroports aussi.
Voilà. Ouais. Et en fait, il faut éviter les Wi-Fi publics. On peut les utiliser, mais derrière un VPN. Parce que là, t'es plus tranquille.
C'est quoi le risque d'utiliser un réseau Wi-Fi d'un aéroport ou d'un hôtel ?
Il est ouvert à tout le monde, donc un pirate avec un PC qui est assis à côté de toi, il peut lire ce que t'es en train d'échanger sur ce même Wi-Fi, en fait.
Et puis, on en parlait au début du podcast, on peut aussi se faire pirater à la maison, hein, pas forcément en passant par un Wi-Fi public. Hein.
Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des pirates qui planquent, qui cachent des virus dans des liens. dans des quand on fait une recherche sur internet, les premiers, il y a des liens qui sont même, enfin, qui, eux, ils payent pour être là, et ça envoie vers des sites malveillants, quoi.
Si j'ai bien résumé, on change les mots de passe ou on utilise un logiciel pour les conserver, ou on les note sur un petit calepin, on installe un antivirus ou on utilise celui qui est déjà dans la machine qu'on a à la maison, et puis également on peut utiliser un VPN. Avant de terminer ce podcast, Fred, si tu devais donner un seul conseil pratique à tous ceux qui nous écoutent pour protéger leur vie privée en ligne, ce serait quoi ? Juste un conseil.
En fait, il faudra arriver à se projeter à ce qu'on fait sur Internet et à ce qu'on fait chez nous. Voilà. Okay. C'est la même chose, en fait, pour moi. Donc voilà, faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Je voudrais conclure par ça, je pense. Il n'y a pas un virus sur chaque site qu'on consulte ou dans chaque mail qu'on reçoit, hein. Mais il ne faut pas non plus être totalement naïf, quoi.
Voilà, ce sera le mot de la fin. On vous invite à vous connecter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming, ainsi que sur le podcastvendéen.fr pour retrouver l'épisode de la semaine dernière qui était consacré à la parentalité numérique, la parentalité 2.0. On sera de retour la semaine prochaine avec Fred Mandin, de mon assistant numérique Vendéo Bocage, pour parler soit de l'IA, soit des maisons connectées. Soyez là, et d'ici là, évidemment, vous commentez, vous likez, vous partagez ce nouvel épisode sur tous les réseaux sociaux du podcast Vendéen. Ciao, ciao, Fred.
Ciao.
Digivendée, un podcast produit par le podcast Vendéen.